Monsieur Guy Samuel Nganatoa, bonjour.
Bonjour, monsieur.
L'Assemblée nationale a approuvé la loi du budget rectificatif 2021. Quel est le montant retenu pour l'exercice de l'année en cours?
Il est judicieux de rappeler le montant qui a été voté dans le budget initial. En effet, le montant du budget initial était de 287 milliards 500 millions en ressources, dont 135 milliards de francs CFA de ressources propres. Les appuis budgétaires sont de 28 milliards 5 et les appuis projets sont pourvus à hauteur de 123,5 milliards de francs CFA. Quant aux charges de l'État, elles sont de l'ordre de 331 milliards 2, dont 103 milliards à titre des dépenses primaires, 152 milliards de dépenses d'équipement et 15 milliards 9 pour le remboursement de la dette. Finalement, le solde budgétaire global est déficitaire et s'élève à 43 milliards 7. Cependant, les effets du Covid et la crise sécuritaire, surtout la fermeture du corridor Bangui-Garamboulaye, ont impacté négativement sur toutes ces prévisions. Il était impérieux de revoir le budget en baisse pour tenir compte effectif des dépenses supplémentaires imposées par la crise sécuritaire, car il y avait un risque d'une crise de liquidité qui empêcherait l'État d'honorer ses obligations au cours du prochain mois. C'est ainsi que le montant du collectif est revu en baisse de la manière suivante. Les ressources sont estimées à près de 261 milliards 3. Initialement, c'était de 287 milliards 5. Aux ressources propres, 121 milliards 2 au lieu de 135 milliards et ressources extérieures, 140 milliards. Les charges sont de l'ordre de 284 milliards au lieu de 331 milliards initialement prévus, dont les dépenses courantes est de 170 milliards, dépenses d'investissement 106 milliards et les remboursements de dette est revu en baisse à l'ordre de 8 milliards, d'où le solde global est déficitaire de 22 milliards 9. Mais je peux vous dire que c'est un budget réaliste de mon point de vue, compte tenu du contexte particulier rappelé tantôt.
Monsieur, nous savons que l'armée est le secteur budgétivore. Combien de millions de francs CFA sont dédiés pour son fonctionnement?
En dépit des contextes difficiles dans lesquels le budget rectificatif a été élaboré, les dépenses de la défense ont connu un bond de près de 7 milliards de francs CFA pour s'établir à 30 milliards, dont 23 milliards 6 dans le budget initial. Les charges de sécurité ont été portées à 12 milliards contre 10 milliards dans le budget initial, ce qui représente une hausse de près de 2 milliards 5.
Oui, mais lorsque vous parlez de cette revue en baisse du budget et que vous avez évoqué la question de coronavirus, l'insécurité, mais nous savons qu'en République africaine, la pandémie de coronavirus n'a pas impacté beaucoup plus sur l'économie. Les centrafricains ont vaqué à leurs occupations et continuent de vaquer à leurs occupations. Et lorsque vous parlez de corridor Bangui-Boire, mais cela a été déjà arrivé il y a longtemps.
Vous savez que même si le pic de Covid n'a pas été atteint, mais soulignons que les activités ont été ralenties à un mois donné et les impacts des produits qui avaient été stockés au niveau d'Ala a joué négativement sur l'approvisionnement au niveau de Bangui. Lorsque vous allez prendre d'une manière macroéconomique, vous savez qu'effectivement, il y a problème.
Il y a problème sous pression du Fonds monétaire international FMI. Le pouvoir avec le quitus de l'Assemblée nationale va supprimer bientôt 6 sociétés para-étatiques. Quel est l'avantage à tirer pour le gouvernement?
La suppression de ces 6 agences intervenues lors de la session extraordinaire est l'émanation du gouvernement qui a constaté des dysfonctionnements dans leur fonctionnement et surtout une mauvaise gestion des ressources publiques qui leur sont allouées sans pour autant qu'elles atteignent les objectifs de la mission d'utilité publique qui leur sont assignés. Prenant acte de cela, l'Assemblée nationale a tout de même pris des précautions nécessaires pour garantir les droits sociaux de nos concitoyens qui travaillent dans ces agences en votant une dotation de 800 millions dans le collectif budgétaire pour le paiement de leur indemnité de départ. L'attention du gouvernement aussi a cependant été attirée pour le suivi des recommandations des députés en vue de ne pas léser le travail de ces 6 agences qui sont la plupart des pères et des mères de famille ayant à leur charge beaucoup de personnes.
Oui, mais si le gouvernement tire profit de cette suppression, mais quelles sont les conséquences?
Je peux dire que il y avait un inventaire qui avait été fait et qui a dénombré 52 structures dans 16 départements ministériels recensés et classés par catégorie. Il se trouve que certaines entités répertoriées au nombre de 8 ne sont pas opérationnelles parce qu'elles n'ont pas jamais collecté les taxes et redevances prévues depuis leur création jusqu'à ce jour. Malheureusement, ce nombre vient grossir artificiellement le nombre des structures avec pléthore de taxes parafiscales, faisant qualifier d'une faible efficacité le système fiscal de notre pays. Par conséquent, le gouvernement était obligé de classer et de supprimer certaines agences qui ne sont pas opérationnelles. Et lorsque le gouvernement avait donné ce programme au niveau de l'Assemblée nationale, l'Assemblée à l'époque avait refusé de supprimer les 12 agences. On a supprimé 6, il restait 6. J'avais demandé à ce qu'une mission d'audit parlementaire soit effectuée afin de déterminer la conclusion de l'audit qui a été fait. Qu'est-ce qu'on a constaté, quoi? Il y avait 4 critères qui les ont caractérisés. D'abord, 1, les comptes d'affectation spéciale, CAS, ont montré que les ressources prélevées ne sont pas utilisées dans le but pour lequel ils ont été créés. Ces ressources ne servent qu'à la prise en charge des dépenses de fonctionnement courant. Le salaire absorbe à lui seul entre 80 et 90%. Vous le savez, pour une bonne gestion, si déjà le besoin de fonctionnement absorbe 80%, ou même 30%, on dit qu'il y a problème. Mais là, on est attaqué jusqu'à 80 et 90% des ressources réalisées, ce qui ne donne pas une justification à tout point de vue. Les activités menées sur plusieurs années n'ont pas atteint des objectifs de développement fixés d'avance, en cohérence avec une politique publique sectorielle. Cette affirmation est justifiée par le fait qu'aucun établissement public ne dispose, malgré l'obligation qu'en fait la loi, d'un plan de développement. En outre, d'importants problèmes en termes de gestion fiduciaire ont été révélés. Il s'agit entre autres de mauvaises tenues de la comptabilité et des dépenses insignifiantes à l'eau et plat des dépenses qui concourent à la création et au développement des actifs publics en faveur de la population. La répartition des ressources entre les dépenses de fonctionnement et celles d'investissement à un niveau moyen de 80% des dépenses de fonctionnement contre 20% d'investissement. Donc vous voyez que ces indicateurs ne sont pas satisfaisants des organes de gestion pour impacter les résultats en termes de fourniture de services de qualité au profit de la population.
Mais tous ces problèmes ont été déjà détectés, mais pourquoi le gouvernement ne pouvait pas les supprimer avant que d'attendre sous pression des partenaires comme le FMI avant de supprimer ces six sociétés?
Bon, je crois que s'il y a la pression au niveau du gouvernement, mais nous, au niveau de l'Assemblée, nous avons constaté qu'effectivement, ces allégations du gouvernement étaient en partie vérifiées. Mais entre-temps, lorsque nous avons commis notre audit, nous avons constaté que ces sociétés ne sont que l'ombre d'elles-mêmes puisque leurs prérogatives ont été tous arrachées par le gouvernement. Et donc, du coup, on avait demandé à ce que ces sociétés soient mises en observation pour un an. Malheureusement, le Fonds monétaire international a dit niet parce que, selon eux, il estime que ces sociétés ne valent rien. Depuis plus d'années, il fallait absolument les supprimer.
Donc ça veut dire que c'est le FMI qui prend des décisions à la place des députés et du gouvernement?
Non, mais vous savez, le FMI aussi a ses raisons. Parce que nous avons un problème de défense avec eux. Parce qu'avec l'insécurité qui était venue, vous savez très bien que le gouvernement n'a pas pu honorer tous ses engagements vis-à-vis du FMI. Puisque à un moment donné, les corridors étaient fermés et les recettes escomptées n'étaient pas au point. Mais nous, au niveau de l'Assemblée nationale, on avait estimé qu'il faut les ériger en direction générale sous leurs ministères tutelles respectifs. Donc, vous allez comprendre que dans la mesure qui a été prise, ce n'est pas une fermeture en tant que telle. Les hauts cadres vont rester et vont travailler sous la tutelle du ministère respectif. Et en fait, les hauts cadres, hein, ceux qui sont prêts à aller à la retraite, seront accompagnés par le gouvernement, les contractuels. Le gouvernement va voir dans quelle mesure les intégrer dans la fonction publique. Ensuite, les cadres moyens seront dédommagés. Et ils auront leurs droits légaux. Pour cela, l'Assemblée a attiré l'attention du gouvernement pour mettre en place une commission qui sera co-gérée et par l'Assemblée nationale et par le gouvernement ainsi que les délégués de personnel de ces fonds et agences-là.
Monsieur Guy Samuel Nganatoua, merci.